for Jesus.
Bonjour Isabelle Craig.
Bonjour
un
Dominique.
Beau temps des fêtes.
Oui.
Bien reposé, belles vacances.
Oui, très sage en fait. Ouais. Je ne me reconnais plus.
Pas trop mangé.
Pas trop mangé, pas d'excès, pas d'abus, pas de maux de tête. Non, du sport, vraiment, on change. Hein.
Mais je savais que je vous hantais, mais au point où vous rêviez à moi, vous avez rêvé à moi la nuit dernière.
Oui, exactement.
Quel cauchemar.
Oui. Écoute, en plus, c'était de la rénovation et en plus, on essayait de te dire, Dominique, ta cuisine, tu peux pas la changer de place, mais tu la changeais de place quand même. Bref, c'est pas intéressant, mais ça m'a tenu occupée cette nuit.
Ben, c'est bon. Donc, vous n'avez pas beaucoup dormi.
Exact.
Mais vous êtes quand même allé à des cours d'espéranto. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'étais convaincue que l'espéranto, qui est, je me dis, c'est presque une utopie. On plusieurs rêvent d'avoir ce langage universel, oui. Cette langue de commune. Mais je ne savais pas que ça s'enseignait encore, l'espéranto.
Écoute, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est fait de façon informelle. Moi, je suis allée dans un sous-sol de Rosemont. Petite rue tout à fait banale, rue Bordeaux, très sympathique, mais oui. Un peu banale. Et on se dit, quand on est voisin, qu'il ne se passe rien dans notre rue, qu'il ne se passe rien dans les sous-sols de nos voisins, ben c'est pas vrai. Il y a des gens sur la rue Bordeaux qui se rencontrent une fois par mois et qui parlent espéranto et qui font des discussions thématiques pour pratiquer un peu leur espéranto.
Oui.
Et j'ai rencontré surtout des jeunes qui s'y étaient mis et qui ont décidé de porter ce projet-là. Et effectivement, tu parles d'une utopie. Ce qu'il faut savoir de l'espéranto, c'est que ça a plus de 100 ans. Il y a des gens qui... Les jeunes générations connaissent pas l'espéranto, mais ça a quand même tout un passé et toute une histoire. Tu sais, pendant la Deuxième Guerre, entre autres, Hitler était parti à la chasse contre les espérantophones, ceux qui parlent espéranto. Pendant la guerre d'Espagne, par exemple, on dit que les anarchistes, c'était, si tu veux, fait leur cette langue-là. Donc, c'est une langue qui a énormément d'histoires, qui a été créée par un ophtalmologue polonais et évidemment qu'il voulait, en faire la langue internationale, la langue pour qu'on se comprenne à travers les peuples. Et d'ailleurs, il s'était donné le titre de docteur Espérance et c'est comme ça que cette langue-là est devenue l'espéranto.
Hein,
c'est Zamenhof, exactement. Tu connais ton histoire de l'espéranto, Dominique?
Ben sur le bout des doigts.
Je suis impressionnée.
Je suis parfaite trilingue.
Alors écoute, je suis allée rencontrer ce groupe de jeunes-là. Je suis allée rencontrer aussi Normand Fleury, qui est vraiment le porte-étendard de l'espéranto au Québec. Il y avait aussi Grégoire Inker et Vincent Riendeau, entre autres. Et la thématique de cette soirée-là, c'était musique et espéranto. Et on a même écouté du rap en espéranto. C'est pour te dire à quel point cette langue, elle est dynamique.
On écoute.
On écoute.
Ce groupe-là de deux jeunes Français qui font du rap en espéranto le font pour provoquer parce qu'ils trouvent que les espérantistes sont trop pépères, sont trop dans leur petit monde, c'est ça, feutré. Alors eux, ils font le contraire et il y en a plusieurs qui sont choqués de ça parce que même leur titre, c'est fec à l'espéranto. C'est comme l'espéranto, c'est de la marde. C'est carrément ça, là. Oh oui, c'est ça le titre de leur disque, là.
C'est une contradiction performative parce qu'ils, je veux dire, ils chantent en espéranto, mais effectivement, je comprends.
Je trouve que ça prouve de manière très impressionnante à quel point l'espéranto est apte à presque tout faire, là.
Comment t'as découvert l'espéranto?
Moi, j'ai découvert l'espéranto au hasard sur Internet. Puis j'étais curieux, ça fait que je me suis décidé à l'apprendre un peu. Puis là, je me suis mis à chatter sur Internet avec des gens d'autour du monde, genre Brésil, Pologne, France, Japon.
Je l'ai appris ici dans le sous-sol. c'est un beau sous-sol de la rue Bordeaux, dans Rosemont, la petite patrie. Puis, j'ai discuté avec les gens qui, à chaque mois, visitent l'endroit pour parler sur diverses thématiques, tout simplement.
Est-ce que c'est une langue facile à apprendre?
Oui, effectivement. Il y a certaines études qui affirment, bref, que le nombre d'heures pour apprendre l'espéranto, comparativement à l'allemand, par exemple, pour un francophone, serait, je crois, de 100 heures pour l'espéranto. Et pour atteindre le même niveau en allemand, serait de 5000 heures. Donc, pour avoir appris l'allemand aussi, effectivement, je peux dire que l'effort que j'ai mis à apprendre l'allemand a été tout simplement énorme. Voilà,
c'est ça. Ben, je crois que d'abord, l'espéranto, c'est ce qu'on en fait sur le plan individuel. c'est qu'il y a des gens qui apprennent l'espéranto par des motifs les plus différents possibles. Il y a parmi nous, il y a des catholiques qui espèrent que grâce à l'espéranto, ce sera le nouveau latin de l'Église. Il y a des communistes qui espèrent que les prolétaires du monde s'uniront grâce à l'espéranto. Il y a des capitalistes qui croient qu'il y aura le marché international idéal grâce à la langue commune. Mais ce qui nous unit quand même, c'est un fondement d'un respect pour la culture de l'autre, pour la langue de l'autre, pour la propre langue. Et une croyance fondamentale que par la compréhension entre les gens, on peut finir par avoir un meilleur monde.
Il faut avoir la foi. On a l'impression que c'est un rêve qui n'a pas fonctionné.
Les gens s'arrêtent à l'idée que le projet de l'espéranto, c'est que tout le monde parle l'espéranto sur Terre. Et ce n'est pas ça, l'espéranto. L'espéranto, Zamenhof, lorsqu'il a créé la langue, c'était d'offrir à l'humanité une langue commune, une langue qu'on appelait neutre à l'époque, maintenant qu'on pourrait dire équitable. Et ça, je constate que le but de l'espéranto est atteint. Est-ce qu'il y en a plus maintenant? Je crois que oui. Pourquoi? À cause de l'Internet. L'espéranto et l'Internet, c'est le plus beau mariage possible. L'espéranto, juste le Wikipédia en espéranto, c'est parmi les plus grands, les 20 plus grands au monde, pour dire combien il y a d'espérantophones qui travaillent à traduire des choses sur le monde entier. Le monde diplomatique est en espéranto, même aussi sur un site web. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Alors, c'est ça, la réalité de l'espéranto.
L'espéranto, hein, c'est un peu un mélange espagnol et du bloc de l'Est, finalement, comme langue, hein, Isabelle. Mais à quoi ça sert? Une fois qu'on a appris l'espéranto, on fait quoi avec ça?
Et c'est une excellente question. On discute, on fait la révolution.
On jase dans un sous-sol de Rougemont.
Exactement. Mais surtout, écoute, on voyage. Et la plupart des jeunes que j'ai croisés dans ce sous-sol-là de Rougemont s'en servent et s'en sont servis pour voyager à travers le monde et être reçus chez des gens.
Ah oui?
Et effectivement, j'en ai reparlé avec Vincent, avec Grégor et aussi avec Evelyne Ménard. Et c'est vraiment, c'est intéressant et c'est le fun comme rêve. C'est sûr que c'est un peu flyé de penser que tout le monde parlera espéranto un jour, mais il y a un idéal que ces jeunes-là portent et qui est assez sympathique. Mm-hmm. Alors, on retourne dans le sous-sol de la rue Bordeaux.
Moi, je trouve que c'est un grand réseau, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller un peu partout. Parce que la langue est parlée dans beaucoup de pays, même si c'est pas énormément de gens, il y a quand même une présence de l'espéranto qui est vraiment partout sur la planète. Donc c'est vraiment ça, c'est et puis je trouve que l'espéranto, il y a toujours aussi une notion d'idéalisme, donc ceux qui la parlent, ceux qui reçoivent les gens, ceux ou même dans les festivals, tout ça, on se reconnaît là-dedans. Donc ce réseau-là, ben il existe. Puis...
Est-ce que l'espéranto t'a servi à voyager?
Oui, ben effectivement, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé d'apprendre la langue. Au départ, j'ai entrepris un voyage en Europe de l'Est. Je suis arrivé en Russie et j'ai eu l'occasion d'avoir finalement des hôtes qui étaient formidables et qui m'ont permis finalement un contact beaucoup plus intime avec une culture étrangère. Et c'est ça qui est important. Multaj homoj kredas ke la verdaj benkoj de bulvarda trotua.
Servas por riposa charme ou simple por ornam. J'étais en voyage quand j'ai découvert l'espéranto. J'étais dans le sud de la France, chez des 68ards. Et il y avait des Polonais qui étaient là. Eux parlaient espéranto, puis les 68ards aussi. Donc, ça m'a intriguée. Et il y a un petit livre qui s'appelle « Passeport à cerveau », qui est comme un réseau pour les voyageurs. Donc, je suis partie avec ça. Je suis allée d'un festival à un congrès où là, je prenais des cours, tout ça, d'une place à l'autre. Et c'est comme ça que j'ai appris. Là.